Bonjour Michel, je suis très contente que tu aies pu m'accorder un peu de temps aujourd'hui. Tu as un planning sacrément chargé en ce moment. Je souhaitais qu'on échange sur ce sujet d'actualité qui va concerner tous les professionnels, c'est la dématérialisation de factures. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on rentre un petit peu plus en détail et qu'on fasse un focus finalement sur ce sujet pour le secteur agroalimentaire. Alors, tout d'abord, tout le monde chaque année te connaît aujourd'hui, mais peut-être que nos auditeurs pas encore. Peux-tu te présenter, s'il te plaît?
Bonjour Lauriane, merci tout d'abord d'avoir pensé à moi. Donc Jean-Michel Marcelin, j'ai 50 ans, je suis originaire du sud de la France. En principe, mon accent me trahit un petit peu. J'ai un feedback, j'ai toujours travaillé dans le monde de l'informatique, de l'IT. J'ai un feedback de 15 ans dans l'EDI, l'échange de données informatisées. J'ai rejoint Akanea, les équipes d'Akanea, au tout début de l'année, de cette année 2023, afin de faire de la facture électronique un succès.
D'accord, oui, effectivement, on entend bien, bien l'accent du sud, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes missions finalement chez Akanea en plus de la facture électronique du coup?
Alors, chez Akanea, je suis business developer EDI et facture électronique pour l'ensemble des BU, des business units, c'est-à-dire agro, transport et transport international. Mais moi, j'aime bien le terme de business évangéliste. Je trouve que ça parle bien, c'est-à-dire en fait, donc j'évangélise, j'apporte ma connaissance aussi bien en interne à nos équipes, on partage de connaissances, et également en externe auprès de nos clients, de nos partenaires. Je participe, comme tu as pu le voir, à pas mal de salons, à des journées portes ouvertes, des journées entreprises. Qu'est-ce que je fais encore? Je participe à, bien sûr, à la définition du produit, aux audits chez nos clients, qu'est-ce que, aux échanges avec le groupe Isagri, puis avec notre société Surf Security, qui est donc la société qui chez nous candidate à l'immatriculation PDP, plateforme d'immatriculation partenaire. Voilà, enfin, tu vois, des semaines bien remplies.
C'est vrai que tu es vraiment partout puisque aujourd'hui tu es à Paris. La semaine dernière, tu as animé un atelier à ce sujet à Beauvais dans les locaux du groupe Isagri avec aux côtés de Security et de la DGPIF, de la DGFIP, pardon. Comment tu pourrais résumer finalement la dématérialisation de factures de manière simple?
Alors en fait, la dématérialisation de facture consiste à supprimer le papier et le remplacer par un support informatique, tout simplement. La
D'accord.
réforme, voilà, c'est assez simple, hein, ça marche pour la facture, mais aussi pour tout type de document. La réforme de la facture électronique, en fait, sa spécificité, c'est qu'elle rend cette dématérialisation de facture obligatoire pour tous les assujettis à la TVA à horizon 2024, avec le respect d'un certain nombre d'obligations et de règles.
D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est toutes les entreprises assujetties à la TVA qui devront se conformer l'année prochaine à cette réforme, mais il me semble qu'il y a différents délais.
C'est ça, oui. En fait, la date à retenir, c'est donc effectivement le 1er juillet 2024, où toutes les sociétés ont l'obligation de recevoir leur facture électronique. Je me dis toutes les sociétés, quelle que soit leur taille. Et on peut même dire que ça commence, enfin la première étape débute dès janvier, puisqu'entre janvier et juillet 2024, toutes les sociétés devront choisir une plateforme de dématérialisation, publique ou partenaire de l'État, pour être en mesure de recevoir ces factures. Ces factures d'achat. Et ça, c'est vraiment toutes les sociétés. Ensuite, il y a un calendrier qui permet de déployer suivant la taille de sa société. Par exemple, au 1er juillet 2024, toutes les sociétés devront recevoir. Et au niveau de l'obligation d'émission, ce sont uniquement les grandes entreprises qui ont l'obligation d'émission de factures. Toutes les sociétés recevront donc, dès le 1er juillet 2024, les factures des grands groupes, comme les factures de frais généraux, électricité, téléphone, etc. Grands groupes, c'est-à-dire des sociétés de plus de 5 000 personnes et de plus de 1,5 milliard de chiffre d'euros d'affaires. Ensuite, 6 mois seulement après, ce sont les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, qui auront cette obligation d'émission. Et enfin, dernière étape, le 1er janvier 2026, donc c'est au tour des TPE et des PME poursuivre la réforme. Elles sont déjà rentrées dès le 1er juillet 2024. Là, elles poursuivent la réforme avec date butoir, obligation d'émission de facture cette fois-ci. Donc, les TPE-PME, ce sont des sociétés de moins de 250 personnes et de moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Voilà, donc on comprend qu'il y aura une période transitoire pendant ces 2024-2026. Et ce sont des dates butoirs, c'est-à-dire on peut anticiper la réforme. Si on est une TPE-PME, on peut, dès le 1er juillet 2024, donc là, obligation de recevoir, mais on peut aussi émettre dès le 1er juillet.
D'accord. Bon, il me semble que c'est l'année prochaine, hein, donc ça arrive à grands pas. C'est un sujet super intéressant, mais puis c'est une obligation, donc très bien, merci beaucoup. Donc tu nous as parlé de quand, tu nous as parlé de à qui s'adresse cette réforme. Est-ce que pour toi il y a des points clés à cette réforme, est-ce qu'il y a des points clés?
Ah oui, bien sûr, oui, il y a des points clés, effectivement. On peut en citer trois complémentaires. Donc le premier point clé, donc c'est ce terme de e-invoicing, cette facture dématérialisée, l'e-invoicing, cette obligation d'émettre sa facture lors de ces échanges B2B, business to business, donc entre entreprises, suivant un des trois formats du socle et en respectant les obligations imposées par la Direction générale des finances publiques, la DGFiP. Donc ça c'est la facture électronique, l'e-invoicing, point 1. Le point 2, c'est le e-reporting. Alors, le cadre du e-reporting, c'est quand on fait du B2C ou du B2B international. B2C, donc, on envoie des factures à des particuliers. B2C, on envoie des factures à l'international. Dans ce cas-là, le support d'émission est libre. On pourra, par exemple, envoyer un particulier un PDF. Par contre, un fichier PDF avec une facture. Par contre, on devra informer l'État de ce que contient la facture. Donc, ce principe de e-reporting, des données transactionnelles qu'on en envoie après. L'e-invoicing se fait en temps réel. Le e-reporting se fait suivant sa déclaration de TVA. Par décade, ou tous les mois, ou tous les trois mois, on va informer l'État des factures que l'on a émises vers des particuliers ou à l'international. On voit bien que là, c'est quand même l'État veut avoir une vision de la TVA à récupérer. Voilà. Donc là, e-invoicing, point 1, e-reporting, point 2. E-reporting, il y a même le cas particulier d'un e-reporting en principe, on le fait que lorsque l'on émet, il y a un cas particulier d'e-reporting lors d'achats intracommunautaires. Là, on doit également indiquer à l'État ce principe e-reporting, qu'est-ce que j'ai reçu, donc données transactionnelles transmises à l'État. Donc invoicing, e-reporting. Troisième point clé très important qui est un peu une révolution, c'est l'apparition de statuts afin de suivre le cycle de vie de sa facture. Il y aura quatre statuts obligatoires, déposer, rejeter, refuser, encaisser. Donc là, lorsqu'on va déposer sa facture, on a une preuve comme quoi on l'a déposée. Si la PDP, si notre partenaire, la plateforme de notre partenaire l'a rejetée ou l'a refusée, on sera au courant. Lorsqu'elle est encaissée, déposée, rejetée, refusée, encaissée, lorsqu'on l'encaisse, on prévient aussi pour les factures de service, les factures avec TVA sur encaissement. Et également, en tout, 14 statuts, ils ne sont pas obligatoires, la PDP Security, notre PDP, plateforme des matériels sans partenaire, gérera les 14 statuts. On saura donc si la facture elle a été rejetée, si la facture elle est en litige, etc. On a une vision de temps réel de la vie de notre facture. Ça, c'est quand même quelque chose de complètement nouveau et qui va apporter un vrai plus au service comptabilité gestion des entreprises. Donc ça, c'est le troisième point. On peut parler, j'en ai déjà pas mal parlé, mais de ces fameuses plateformes. Jusqu'à présent, quand on avait besoin de faire de la facture, on passait soit par des PDF signés de l'EDI, on passait par des opérateurs de dématérialisation. Aujourd'hui, on a l'obligation de transmettre les données à l'État à travers une plateforme, soit une plateforme publique, le PPF, le portail public de facturation, qu'on connaît déjà à travers Chorus Pro, qui permet de faire l'échange vers l'État, l'échange de ses factures vers les collectivités. Donc là, ce portail Chorus va devenir le PPF, le portail public de facturation, et on va pouvoir s'interfacer avec ce portail public à travers, soit directement, soit à travers une plateforme de dématérialisation partenaire immatriculée. Ça, c'est complètement nouveau. C'est on va dire que c'est un plus de l'État français. Par exemple, la dématérialisation existe en Italie, mais sans plateforme de dématérialisation privée. Ce qui fait que quand un Italien veut envoyer ses factures, il les envoie à l'État, et tant que l'État n'a pas validé, ben son client ne reçoit pas sa facture. Là, on passe par des partenaires, on a une plus grande ouverture. La DGFiP, là, il faut reconnaître, a fait un pas, on appelle ça une architecture à 5 points, enfin, une belle avancée. C'est quand même voilà, on a des contraintes, mais on a aussi de belles avancées techniques. C'est un peu informatique d'informaticien. Et après, il y a également à terme, quand toutes les sociétés seront en place, donc ce sera plutôt 2026, la possibilité de recevoir des déclarations de TVA pré-remplies avec toutes ces informations récoltées. Voilà. Il y a également la notion d'archivage, mais ça c'était déjà en principe présent pour les sociétés qui faisaient déjà de la facture électronique. Il y a une obligation d'archivage. Donc voilà. Là on est sur les. Donc, tu avais parlé de 3 points, là on est 4, 5, 6. Bon, on va essayer d'être de synthétique. Voilà, on a déjà quand même bien abordé le sujet.
D'accord. Effectivement, alors, des points clés assez spécifiques. Donc, ce que je retiens, c'est que les professionnels de l'agroalimentaire seront obligés de passer par une plateforme de dématérialisation, soit publique, soit privée. Le privé offrera peut-être plus d'avantages que le public, plus de services, etc. Que les obligations dépendront aussi de leurs clients, B2C, B2B, B2B international. Et que quand même ces obligations, cette réforme a fait avancer un petit peu le parcours de suivi de la facture et de la déclaration, puisqu'on va pouvoir en retirer donc certains avantages, du gain de temps, un petit peu plus d'informations en temps réel avec le suivi de la facture, et comme tu disais, à terme, les déclarations de TVA pré-remplies, qui est quand même non négligeable, quoi.
Ah, tout à fait.
Donc, du coup, à quoi doivent s'attendre les professionnels du secteur agroalimentaire, pardon, là, dans les prochains mois, dans les prochaines années?
Alors, s'ils sont pas accompagnés, s'ils se prennent pas à l'avance, s'ils n'ont pas pris en considération toute la largeur, le périmètre de cette réforme, ils risquent de s'attendre à quelques désagréments au démarrage. C'est un peu comme le 14 juillet, quand on veut prendre l'autoroute de la mer, hein, on risque d'une part de rencontrer beaucoup de personnes au même endroit, et voilà, et puis voilà, il faut penser à prendre sa crème solaire, sa bouteille d'eau, son ticket de péage, etc. Donc là, c'est un peu pareil pour la réforme de la facture électronique. Si le professionnel du monde de l'agroalimentaire n'a pas pris tout ce périmètre et ne se fait pas accompagner, il peut rencontrer quand même quelques contraintes au départ.
D'accord. Alors, surtout que, du coup, le secteur de l'agroalimentaire a plusieurs filières, a plusieurs métiers et des spécificités par métier. Donc, je pense par exemple notamment aux grossistes, les coopératives qui fonctionnent quand même de manière différente. Est-ce qu'il existera des spécificités par métier sur la dématérialisation de factures?
Ah oui, il y a pas mal de spécificités. On parle notamment de cas d'usage au niveau de la DGFiP. Donc, plutôt pour les coopératives, il y a la question qui se pose, c'est la question de l'autofacturation, de la facturation pour le compte d'eux, où les coopératives rémunèrent leurs producteurs après la vente. Donc ça, c'est un cas d'usage 19B de la DGFiP, c'est un cas très particulier. Les grossistes seront moins concernés, sauf les importateurs, qui eux gèrent des comptes de vente, qui sont également un cas particulier. Il existe également le principe des enchères dégressives dans le monde des fruits et légumes, qui est encore un cas particulier. J'aime bien l'imager avec le principe d'enchères dégressives. J'aime bien l'imager quand on va au marché, on y va à 8 heures pour acheter son kilo de cerises, on va pas le payer le même prix que quand on va à midi, il reste quelques cerises ou une cagette. Donc voilà, c'est un peu le même principe. Donc il y a
D'accord.
tous ces cas particuliers, voilà, qui sont propres au secteur de l'agroalimentaire, des fruits et légumes, de la viande. Il y a également la question qui peut se poser dans le monde de l'agroalimentaire, c'est le transport. Donc là, forcément, Acarnia est bien placé pour y répondre, puisque il y a cette double casquette, transport international, agroalimentaire. Donc voilà, on a cette connaissance du monde du transport, notamment des factures de services avec une TVA sur encaissement, qui est encore un cas particulier de la réforme. Donc là, on arrive à répondre au large spectre que vont rencontrer les professionnels de l'agroalimentaire. Et toutes ces spécificités, représente des cas d'usage. Des cas d'usage, c'est le terme officiel employé par la DGFiP, et c'est très important d'avoir ça en tête lors du choix de sa plateforme de dématérialisation partenaire. Toutes les plateformes de dématérialisation partenaire ne seront pas en mesure de gérer dès le 1er juillet 2024 tous ces cas d'usage spécifiques à un métier comme l'agroalimentaire, le fruit et légumes, la viande, le transport, etc.
D'accord. C'est vrai que c'est une réforme qui est annoncée comme globale, mais les spécificités de chacun, métier, fonctionnel, etc., sont à prendre en compte. Nous, Akanea, donc éditeur de logiciels pour l'agroalimentaire et la supply chain, comment on va intervenir sur cette réforme finalement?
Oui, ben en fait, Akanea a pris très tôt, j'ai envie de dire, l'autoroute de la réforme, en fait, avec l'apport d'une part du groupe Isagri et de notre société sœur Security, donc qui est pays facture. On travaille sur toutes ces questions qui sont à la fois très métiers et très techniques. Pour arriver à lier ces deux notions. E-facture, la plateforme e-facture de Security est candidate à l'immatriculation PDP, plateforme d'immatriculation partenaire. Nous, de notre côté, nous apportons à Security tous nos retours terrain, toute notre connaissance métier. En gros, on met les mains dans le cambouis, on définit les meilleurs outils possibles afin que nos clients puissent prendre l'autoroute donc de la réforme sans avoir à faire de leur côté toute cette partie assez technique.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, Akanea proposera donc finalement une offre globale qui répondra à cette réforme, et c'est grâce donc à notre anticipation et à la force du groupe Isagri. Mais la question, c'est peut-être pourquoi choisir Akanea et pas une plateforme, par exemple pour le public. On sait qu'on va offrir plus de services, mais du coup, pourquoi Akanea?
Alors, pourquoi choisir Akanea? Forcément, tout ce qu'on a évoqué, cette gestion de cas spécifiques liés au monde de l'agro, du transport, et puis qui, au final, vont apporter aux clients un gain de temps évident, notamment par rapport à une plateforme publique, qui vont également apporter un gain financier, un gain de trésorerie, un gain d'argent évident. Il y a un rapport de 10 entre une facture papier et une facture électronique. Et un gain de productivité, le temps passé, et puis l'efficacité, avec notamment ce suivi de statut de facture, savoir où est notre facture, c'est un gain de productivité. Voilà, le tout, l'esprit tranquille, parce qu'il y a des équipes avant qui auront travaillé pour nos clients, en respectant le cadre légal, c'est très important, hein, accompagné par de vrais professionnels à la fois de l'informatique, de la facture électronique et de l'agro. Donc là, on réunit bien tous ces corps de métier. Plateforme, j'en ai parlé déjà, mais bon, c'est très important, plateforme de dématérialisation de partenaires comprises et gestion de ces cas d'usage spécifiques. En fait, la question à se poser serait plutôt pourquoi ne pas choisir Akanea, en fait.
Bon, bah écoute, on va finir sur ça, hein, finalement. Effectivement, il me semble que qu'Akanea coche toutes les cases, à la fois expert logiciel et expert métier. Donc effectivement, pourquoi pas nous choisir? Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel pour toutes ces informations. On a déjà quand même pas mal de contenu sur la dématérialisation sur notre site web akanea.com dans la rubrique dématérialisation de factures. On a des infographies, des articles, des interviews. Donc voilà, si vous avez besoin d'éléments complémentaires, vous pouvez trouver Jean-Michel, il me semble, sur LinkedIn. Tu es pas mal actif et puis tu es tout le temps connecté finalement.
C'est ça, tout à fait. Vous pouvez me joindre par LinkedIn, Jean-Michel Marcelin à Akanea. Également par mail, l'adresse générique dématérialisation@akanea.com. À travers nos réseaux. Lorian, tu peux m'en dire plus, je crois. C'est toi qui anime pas mal cette activité.
Oui, effectivement, on est sur LinkedIn, on est présent sous Akanea Agro et on partage régulièrement 2-3 fois par semaine. On partage du contenu dédié au secteur agroalimentaire, dédié aux professionnels des différentes filières, que ce soit les produits carnés, les fruits et légumes ou alors les produits de la mer, mais aussi des sujets transverses, effectivement, comme celui de la dématérialisation de factures. Donc, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, Jean-Michel, je voulais vraiment te remercier pour ton intervention aujourd'hui. Et puis je te remercie encore une fois et je te dis à très vite.
Merci à toi, merci d'avoir pensé à moi, merci beaucoup et puis bonne journée et à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.